L'île de Tin, chapitre 2. Pendant notre visite au solitaire, le vent avait balayé les brouillards du matin. Lorsque nous nous remîmes en marche, le ciel était magnifique. Un soleil resplendissait, un soleil de Grèce éclairait la campagne. Tin, l'ancienne Ténos, est creusée sigûrement en forme d'entonnoir très évasé. On n'y voit plus trace des grandes forêts qui la couvraient autrefois, au dire des anciens, et rien ne subsiste du beau temple témoignage de la reconnaissance des habitants, délivré jadis par Neptune, d'une population de reptiles qui envahissait l'île et menaçait d'y dévorer toute la population humaine. Les serpents ont disparu comme le temple, et les habitants actuels, ignorant le fléau qui épouvanta leurs ancêtres, et l'origine du nom de leur île, qui remonte ce fléau, ne se doute pas non plus que les savants des pays civilisés s'inquiètent de savoir si le nom de Tin dérive du nom grec Thanos ou du mot phénicien Thanot, serpent, dragon. Sans trop se soucier d'où il vient, ils le prennent pour ce qu'il est, le prononcent Tino, et cela leur suffit. À défaut de forêts, les coteaux sont revêtus d'un grand nombre de figuiers, de mûriers, qui, sans atteindre jamais une haute croissance, n'en donnent pas moins un ton vert et riant au paysage. Une soixantaine de villages blancs à toits plats et d'églises avec leurs clochers en forme de minaret qui annoncent l'Orient se dressent au milieu de ces arbres et se détachent vigoureusement sur leur sombre feuillage. Un ruisseau, pompeusement nommé Fiume, traverse l'île et la féconde. Au lever d'un beau soleil de mai, tout cela était éclatant de lumière et de verdure. La mer entourait ce frais paysage de son grand cadre d'azur, et nous pouvons, puisque nous sommes au pays des pierreries et du langage figuré, nous servir d'une comparaison de Mahomet en disant que par cette belle matinée, l'île de Tin semblait une émeraude enchâssée dans un immense saphir. Toutefois, il faut bien le dire, si la fertilité de Tin frappe vivement le voyageur et appelle de si orientales comparaisons, c'est moins parce qu'elle est réellement que par le contraste qu'elle oppose à la déclassation des îles voisines. Son déclin n'est que relatif. Cette végétation phénoménale dans l'archipel serait en France moins qu'ordinaire. Les Cyclades, que les poètes nous dépeignent si riantes, sont en général d'une aridité désespérante pour l'imagination. Que d'illusions s'envolent quand on arrive en Grèce. Lorsque, venant d'Europe, quelques heures après avoir, pour la première fois, entrevu dans un vague lointain la terre du Péloponnèse, le voyageur double enfin le cap Matapan, il éprouve un premier mécompte. On lui désigne à droite sous le nom de Cerigo, et comme habité par 6 soldats anglais, un rocher chauve et aride comme les côtes de Provence. Cerigo n'est autre que cette île des amours, dont le climat était si énervant, dont les myrtes, les citronniers fleuris exhalaient de si suaves parfums, au temps où elle se nommait Cythère, où Vénus était sa souveraine. Puis vous vengez Milo, Anti-Milo, avec son turban de nuages qui la couvre perpétuellement comme une ombrelle, Paros, Anti-Paros, Syra, partout la même désolation. Si vous poussez plus loin votre voyage, vous retrouvez encore, à l'autre bout de l'archipel, la même stérilité, et jusqu'à Nicaria et Patmos, la plupart des îles ne sont que des masses de rochers, non seulement sans végétation, mais sans apparence de terre végétale. Cependant, nier que ces îles aient été cultivées serait contredire un trop grand nombre de témoignages. Autrefois, assurent les anciens, elles étaient couvertes de forêts. Il faut croire alors que la destruction de ces forêts est la cause de la stérilité actuelle des Cyclades. C'est du moins la seule raison qu'on en puisse donner. En général, ces îles, au lieu d'être comme tines creusées intérieurement, se dressent en forme de pyramide ou s'arrondissent en dôme, et du côté de la mer présentent dans tout leur pourtour des falaises plus ou moins rapides, plus ou moins élevées. En couvrant de terre ces rochers coniques, la nature, toujours prévoyante, y avait jeté des graines qui, devenues arbres, donnèrent au sol l'abri de leur feuillage et le soutien de leurs racines. Les arbres détruits, le sol se trouva mis à nu, et la terre, desséchée, pulvérisée, réduite en cendres par un ardent soleil, attirée par la pente, entraînée d'ailleurs par son propre poids et soulevée par les vents, fut emportée peu à peu dans la mer. Rien alors ne resta de ces îles, sans doute trop embellies par la fable, rien que le squelette de pierre. Quelques observations viennent à l'appui de cette conjecture que nous croyons la seule acceptable. De toutes les Cyclades, celles précisément qui offrent au regard la pente la plus rapide, comme Antimilo, Nicaria et Patmos, sont aussi les plus arides. Dans celles au contraire où un pli du sol, une déchirure de rocher, a permis à la terre de se maintenir, la terre est restée, il y a donc eu de la terre, et quelques buissons rabougris végètent de leur mieux. Tine, qui ne présente point la conformation des autres Cyclades, a un aspect verdoyant et nourrit en partie ses habitants. Cos, la patrie d'Hippocrate, également aplatie par la nature dans sa partie méridionale, produit un platane gigantesque, célèbre dans tout le Levant. Rhodes, dont les abords sont taillés en pente très douce, et la fertilité même. Il me semble voir encore son merveilleux rivage couvert de bois immenses, embrasés par le soleil couchant, et le souvenir de Scio, dont la surface est suffisamment aplanie, m'arrive encore tout imprégné de la senteur de ses forêts d'orangers. Il va sans dire que, si l'on excepte Tine, Naxia, Négrepont et Poros, qui touchent presque au continent, la Turquie a pris sous sa protection toutes les îles productives. Les rochers seuls appartiennent maintenant à la Grèce, et c'est pour elle un grand malheur. S'il nous était permis d'aborder une question aussi grave, nous dirions que peut-être c'est à la perte de plusieurs îles, autrefois attenante à son territoire, de Candie surtout, que l'on doit attribuer l'état d'appauvrissement dans lequel végète ce malheureux pays. Obtenir des Turcs la cession de l'ancienne Crète, à l'époque de l'organisation du gouvernement grec actuel, était peut-être le seul moyen de le rendre viable. Les prêts ne lui donnent pas une condition réelle d'existence, et, chose fort remarquable, la nation désapprouve l'emprunt fait aux trois puissances. L'État s'est endetté, dit le peuple grec, et quel bien en est-il résulté pour nous? Comment a-t-on employé les millions empruntés? Avec une partie de la somme, on a construit un palais inutile. Avec le reste, on le meublera. On a soldé à prix d'or des fonctionnaires allemands qui, une fois enrichis, ont regagné leur pays. Est-il juste que la Grèce se ruine au profit de la Bavière, que les compatriotes du roi, venus avec lui à Athènes, y jouissent de nos privilèges? Nous le voulons bien, mais alors qu'ils soient comme nous, sujets grecs, et non pas des étrangers venant chercher fortune, qu'ils s'associent aux destinées du pays, qu'ils y achètent des propriétés et nous les donnent à cultiver. Puis, ajoutent naïvement les Grecs, si jamais l'on était obligé de restituer cet emprunt, comment ferait-on? On prendrait nos maisons, nos bateaux, nos récoltes. Telle est la défiance qu'inspire un gouvernement qui, n'ayant pas su s'identifier avec la nation, confondre ses intérêts avec les siens, est considéré par les Hellènes non pas comme un pouvoir régénérateur, mais comme une colonie étrangère à charge au pays et imposée par les circonstances. Les habitants de la plupart des îles grecques, ne pouvant être agriculteurs sur le rocher stérile où la terre manque, où la culture est impossible, se font presque tous marins et cherchent leur vie dans le négoce. Leur pays ne fournissant pas les éléments d'échange nécessaires, ils sont forcés de s'expatrier. Grâce à leur excessive sobriété, ils trouvent à vivre misérablement dans les ports de l'Adriatique, sur la côte d'Italie, à Marseille, en Espagne même, et surtout en essayant de lutter contre l'envahissement du commerce autrichien dans la mer Noire. Cette désertion est ruineuse pour le pays. Il en serait tout autrement si l'on rattachait Candie au royaume grec. La situation de cette île, rempart naturel du Péloponnèse du côté du sud, son excellent port de la Souda, sa position intermédiaire entre l'Afrique et la Grèce, son excessive fertilité, lui assurait une immense importance. Ses huiles seules suffiraient à réactiver les commerçants et retiendraient dans le pays des marins émigrants dont le nombre augmente tous les jours. En outre, les Candiotes sont grecs, et ils ont prouvé il y a 2 ans, par leur révolte, combien vif leur désir d'être réunis à la mère patrie. Ce désir s'explique plus facilement par l'amour national que par l'intérêt matériel. La domination turque n'est pas pour eux sans avantage. Soumis à la porte, les Candiotes vivent, il est vrai, dans un état de vassalage, mais par leur activité, ils se sont rendus indispensables et ont acquis une puissance qui rend illusoire celle de leur maître. Légalement, ils ne possèdent pas, puisque dans les pays turcs, les Turcs seuls sont possesseurs, et que les Rayas n'ont ni le droit d'avoir ni le pouvoir d'acquérir. Par le fait, cependant, ils ont tous les avantages de la propriété. D'abord tributaires et du pacha qui les gouverne et du propriétaire pour lequel ils exploitent, ils s'affranchissent plus tard de la redevance et l'impôt seul reste à leur charge. Les baux sont ainsi faits, que la rente qu'ils doivent payer, eux, Raya, aux Turcs, leurs maîtres, ou à la mosquée qui les occupe, car les mosquées, comme autrefois les couvents en France, ont en Turquie de grandes possessions, va diminuant tous les ans et s'éteint au bout d'un certain laps de temps, en sorte que, sans devenir propriétaires du terrain qu'ils cultivent, ils en acquièrent tout le revenu. Les Turcs, ne travaillant pas par eux-mêmes, sont forcés de subir les conditions de leur raya, si onéreuses qu'elles soient, sous peine de laisser leurs terres incultes et de n'en retirer aucun rapport. Aussi, dans les pays turcs, voit-on les rayas hériter la fortune de leurs maîtres, et les Grecs s'enrichir au fur et à mesure que les musulmans s'appauvrissent. Seul le pouvoir arbitraire du pacha peut contrarier cet ordre de choses. Préposé à l'administration d'une île ou d'une province, il s'est fait, pour ainsi dire, le fermier du gouvernement et a pris à bail cette île ou cette province. Souverain absolu, ne relevant qu'une autorité éloignée et peu soucieuse de ses actes, il prélève, par tous les moyens qui lui paraissent convenables, le tribut dû au sultan et quelquefois, par des exactions cruelles, un second tribut pour lui-même. Mais si les pachas ont fait à leur profit des razzias dans leur province, on doit ajouter que ces exemples de barbarie sont devenus excessivement rares depuis la publication du Hatti Sherif, et les rayas n'ont guère à souffrir maintenant de leur avarice ni de leur despotisme. Les îles grecques, au contraire, régies par un préfet ayant le titre de gouverneur, sont administrées comme nos départements. La propriété y est reconnue. Malheureusement, la pauvreté du trésor, l'administration défectueuse des finances, les dépenses mal entendues du gouvernement ont amené jusqu'à présent une augmentation successive dans les impôts, dont le poids est tel aujourd'hui à la répartition si mal faite que l'on voit, chose pénible à dire, les habitants de quelques-unes de ces îles moins beaux patriotes que ceux de Cordy regretter la domination des Turcs. Si sauvages et si arides qu'ils paraissent d'abord aux voyageurs, les rochers des Cyclades n'en forment pas moins un horizon à souhait pour le plaisir des yeux. Nus, dépourvus de tous les dons de la nature, n'ayant pour ainsi dire pas même de couleur, ils se parent merveilleusement de toute la richesse du climat, de toute la beauté de l'atmosphère, et revêtent les teintes splendides que le ciel leur envoie. Ce sont des prismes admirables établis sur la mer pour refléter le soleil et reproduire, plus belles encore, les nuances changeantes à chaque heure de l'horizon oriental. Le matin, avant le lever du soleil, au milieu de cette mer unie et blanche comme un lac de mercure, les îles se colorent d'un bleu tendre, délicieusement fondu, impossible à définir, qui n'est pas l'indigo et qui n'est pas l'azur, mais qui souvent m'a rappelé cette couleur d'un instant qui, aux heures de rosée, s'attache comme une poudre légère aux prunes sauvages de nos haies et disparaît plus tard à la chaleur. Le soleil levé, la mer enflamme les rochers, se dore et scintille comme des topazes. Le soir, ils subissent dans toute sa splendeur l'incendie du couchant, et plus tard rendent dans toute leur transparente pâleur les teintes roses qui lui succèdent. La nuit, enfin, au clair des étoiles, on croirait voir d'immenses coupoles bleues gouachées par la lune qui se lève, d'un large reflet blanchâtre et entouré d'une ceinture d'argent par la mer qui se brise. En quittant la maison de l'ermite, nous suivîmes un chemin qui n'était pas un chemin, mais une échelle de pierre. Heureusement, nos mulets se sentaient chez eux. Ils connaissaient depuis longtemps ces périlleux échelons qui descendirent avec une agilité de chamois. Notre guide nous apprit que nous allions chez l'évêque. Arrivés au hameau, habité par son éminence, nous mîmes pied à terre devant l'église métropolitaine, qui n'est en vérité qu'une grande chapelle. Une rue étroite et fangeuse nous conduisit à un petit escalier de fort modeste apparence. Sous la première marche, une truie était couchée, allaitant quelques marcassins. À notre approche, cette progéniture s'effraya, se mit à geindre, se rua dans nos jambes. Nous dûmes livrer un assaut pour gagner l'escalier du père spirituel de l'île. Enfin, nous entrâmes dans une petite chambre blanchie à la chaux, entourée de divans et décorée de lithographies représentant, dans ses différentes phases, l'arrestation du pape Pie VII. L'évêque est un vieillard d'une physionomie douce et grave. Il portait de simples costumes de prêtre. Nous le trouvâmes assis devant une petite table chargée de livres. Il se leva et nous fit l'accueil le plus gracieux. Les visites sont toujours trop peu communes à Tin pour n'y pas causer toujours une vive sensation. Nous voyant assis, le vieillard appela une servante, laquelle, par parenthèse, était fort jolie et n'avait sûrement pas la moitié de l'âge requis pour servir un évêque. Elle reçut un ordre, sortit, et presque aussitôt reparut, portant sur un plateau, suivant l'usage levantin, un grand verre d'eau et une coupe de cristal pleine de confitures de roses. Si bonnes que fussent ces confitures, nous n'en avalâmes, selon l'étiquette, qu'une seule cuillerée, puis une gorgée d'eau, et nous nous apprêtions à répondre aux questions que l'évêque nous faisait sur Rome, qu'il avait habité, et d'où nous venions, lorsque la jeune servante reparut, apportant le café. Quand nous eûmes vidé nos tasses, le prélat nous exprima le regret de n'avoir point de pipes à nous offrir. Je lui demandai s'il fumait. Il me répondit que cela lui arrivait quelquefois. Je n'avais garde de perdre cette occasion, unique peut-être dans ma vie, de voir fumer un évêque. Tirant de ma poche un étui garni de cigares de Malte, je le lui présentai. Il accepta et bientôt j'eus la satisfaction de voir quatre petites colonnes de fumée s'élever en spirale vaporeuse vers le plafond de la demeure épiscopale. La connaissance étant ainsi faite, la conversation s'établit. L'évêque, qui est le pape de son île, m'apprit que de toutes les Cyclades, Tine est la plus catholique. Sur une population de moins de 20 000 habitants, il comptait, me dit-il, plus de 8 000 fidèles, établis la plupart dans la partie septentrionale de Nil, tandis que les Grecs occupent au contraire le côté du sud. Il avait fondé chez lui une sorte de petit séminaire où il faisait instruire les jeunes gens destinés à la prêtrise. « Et en France, me demanda-t-il d'un ton de tristesse, où en est la religion ? Dans tous les pays que j'ai parcourus, j'ai vu que les Français, reconnus à juste titre pour les hommes les plus aimables de la terre, passaient en même temps pour de véritables païens, ne croyant ni à Dieu ni au diable, et débauchés jusqu'à la folie. J'essayais, trop inhabile défenseur d'une si sainte cause, de ramener le vieil évêque à une opinion plus juste. Je l'assurais que nous valions infiniment mieux que notre réputation, et que les mœurs proclamées si légères en France y étaient peut-être au contraire plus sévères qu'en tout autre pays. Je dois avouer que mon discours ne parut aucunement persuader l'évêque de Tine. Il avait à notre égard une opinion toute faite. Au demeurant, il me sembla un excellent homme. Je n'oubliais pas, comme on le pense bien, de lui parler de l'ermite. Un instant, j'espérais apprendre de lui le mot de cette étrange destinée. « Il polonaise, » me dit l'évêque. Et il me conta ce que je savais de lui, mais quand je voulus le presser de questions, lui parler du passé de cet homme, lui demander qui se cachait sous cette vague dénomination de « il polonaise », le prélat, soit qu'il ne s'en fût jamais inquiété, ce qui n'est guère probable, soit qu'il n'en eût rien appris ou qu'il feignît de n'en rien savoir, me répondit, en soufflant gracieusement un nuage de fumée, que c'était un saint homme et un bon chrétien. Il me fut impossible d'en apprendre plus. Personne n'a su m'instruire à ce sujet, et maintenant encore, chaque fois que ma pensée se reporte au triste couvent de l'île de Tine, elle en revient plus que jamais préoccupée de son hôte mystérieux. Après avoir quitté l'évêque, notre cicérone nous fit successivement parcourir plusieurs villages. Il paraissait assez flatté d'être notre guide, sa physionomie était pleine de gravité. Les gens que nous rencontrions s'arrêtaient-ils étonnés de voir nos figures étrangères ? Il se rengorgeait dans sa cravate, se dressait sur son mulet et les regardait d'un air d'importance sans répondre à leur maître d'interrogation. Il nous présenta à toutes ses connaissances. Après 6 visites faites dans le même village, nous entrâmes dans plusieurs maisons isolées. C'était celle du docteur, personnage fort considérable, celle des consuls d'Angleterre, de Russie, d'Espagne, etc. Toutes ces bonnes gens sont bien entendu consuls in partibus, sans appointement, sans fonctions aucune. Mais ils en ont le titre, et c'est bien quelque chose dans l'île. C'est bien quelque chose aussi d'avoir le droit de hisser au-dessus de sa maison un grand pavillon bariolé chaque fois que passe en mer un vaisseau de guerre. La plupart ne parlaient pas l'italien, et je l'ai dit, nous ne parlions pas le grec. La conversation était donc naturellement fort languissante. À l'intérieur, les maisons étaient toutes semblables, blanchies à la chaux, fort proprement meublée et entourée de divans. Elle différait seulement par le choix des lithographies coloriées qui décoraient les murailles. L'arrestation du pape était remplacée chez un habitant plus profane par les aventures lamentables de Mathilde et de Malek Adel. Ici, le solitaire avec sa barbe, Ipsiboé avec son écureuil et quelques autres personnages de M. d'Arlincourt dépossédaient les héros éplorés de M. Cottin. Partout, le café fut de rigueur. Le refuser est une grave impolitesse, de sorte que, durant cette matinée, avant de rentrer pour dîner, nous en avions avalé chacun 14 tasses par pure politesse, c'est-à-dire à nous deux la ration de 28 Parisiens. Mais il faut ajouter que le café turc, moins brûlé et plus parfumé que le nôtre, broyé et non moulu, bouilli dans l'eau et servi avec son marc, est moins une boisson qu'un délicieux manger qui n'agite pas le moins du monde. Avant de revenir chez notre hôte, nous nous arrêtâmes au couvent de l'Annonciation. Ce couvent est sans contredit le plus beau monument moderne que j'ai vu en Grèce. Ce n'est pas beaucoup dire. Il est construit en marbre blanc tiré des carrières de l'île. L'architecture ne manque pas d'élégance, bien qu'elle ne soit pas du tout le plus pur. L'église surtout, mélange des styles byzantins et turcs modernes, hérissé de sveltes minarets, précédé d'un magnifique escalier et d'un aspect plein d'originalité. Elle est à l'intérieur fort richement décorée et surchargée de dorures selon la coutume grecque. Ce déploiement de luxe, assez singulier dans une pauvre île, s'explique par une légende. On a, dit-on, découvert dans les fondements de cette église une statue de la Madone qui a fait les prodiges les plus extraordinaires. C'est une histoire qui a beaucoup de rapport avec celle de Sainte Rosalie de Palerme. Mais à Tines s'est établi un pèlerinage bien autrement méritoire que celui du Mont Pellegrino. Les croyants grecs ne peuvent pas, comme les croyants siciliens, accomplir leur dévotion ou leurs vœux rien qu'en faisant une petite promenade. Ils ne viennent pas de la ville voisine. C'est de toutes les îles de l'archipel, de tous les coins de la Grèce et de l'Asie mineure, qu'arrivent tous les ans à Tines, après une périlleuse navigation, une foule pieuse et éclopée. Aux uns, la vue manque, ils demandent à voir clair. D'autres sont boiteux, ils viennent prier la Madone de faire marcher droit. Quelques-uns, plus désintéressés, se rendent à Tines pour prier seulement. Du couvent de l'Annonciation, leur voix, disent-ils, sera mieux entendue que du coin du monde où Dieu fit naître. L'église n'occupe qu'une seule aile du long bâtiment. Le reste est une grande galerie divisée par cellules. À son arrivée, chaque famille de pèlerins entre en possession de l'une de ces cellules. On lui donne les quatre murs, le toit et un petit fourneau, cela gratis. Il est vrai que chacune de ces familles apporte de nombreux présents. Les pèlerins n'ont donc à s'inquiéter que de leur nourriture. Ils achètent leur bois, leurs provisions, leur roba, enfin. Le mobilier de Levantin n'est pas considérable. Le jour, il rêve assis sur un tapis. La nuit, il dort couché sur ce tapis. Le couvent est pour eux une fort commode habitation. Ils y peuvent rester tout le temps qui leur plaît. Ce pèlerinage est la grande richesse de Tines. Cet accroissement de population donne pendant un mois beaucoup de mouvements à son marché et d'ouvrages à ses marins. En outre, les présents offerts à l'église par la piété des fidèles ne laissent pas que d'avoir leur importance. Ils sont de différentes natures. Les riches donnent des lampes d'or ou d'argent, des ornements magnifiques, des pierres précieuses. J'ai vu dans l'église de superbes diamants. Les autres apportent le produit de leurs champs, les œufs de leurs poules, et jusqu'à leurs pipes. Ces objets sont vendus à l'encan, et le total de cette vente s'est élevé jusqu'à 50 000 drachmes pour une seule année. Une partie de cette somme demeure au couvent, le reste va grossir le trésor de Phil. Ainsi donc, quand même il ne serait pas une fondation religieuse, ce pèlerinage resterait toujours une excellente spéculation administrative. La chose a été parfaitement comprise par tous les insulaires de l'archipel. Ils sont fort jaloux de ce privilège de Tine. Il y a peu d'années, les habitants d'une île voisine, ceux de Naxi, je crois, prétendirent qu'ils avaient eux aussi trouvé une statue de la Madone. C'était une Minerve, peut-être, mais ils assuraient que c'était une Madone, et qu'elle était capable de faire des miracles, tout aussi bien que celle de Tine. En conséquence, ils demandent à ce qu'on les aida à construire un couvent. Il leur fut répondu que c'était assez de Madone comme cela, et qu'on n'en voulait plus. Quoique le temps du pèlerinage fût passé à l'époque où nous visitâmes le couvent de l'Annonciation, quantité de cette île était encore habitée, et comme ces pèlerins étaient des hommes du peuple qui n'avaient pas, ainsi que notre guide, de prétentions à l'élégance, nous pûmes observer une variété de costumes fort curieuses. C'étaient des Albanais avec leurs guêtres brodées, leurs vestes pailletées et leurs blanches fustanelles, leurs tailles de guêpes et leurs ceintures garnies de pistolets à crosse d'argent. Des femmes hydriotes avec leurs beaux yeux et leurs coiffures en forme de ruche, d'élégantes smyrniotes portant coquettement sur l'oreille le tacticos brodé d'or, des Grecs de toutes les îles avec leurs larges pantalons verts et leurs fesses rouges à houppes bleues. Notre cicérone semblait fort mécontent de nous voir visiter ce couvent avec intérêt. C'est à peine s'il nous permit de regarder la pierre où fut découverte la prétendue Madone. Il avait des sourires voltairiens. Forcé d'entrer avec nous dans l'église, il ne le fit qu'avec une extrême répugnance, comme s'il eût craint de voir s'écouler sur lui ces murs profanes. Dans sa jalousie de catholique, il jetait à la dérobée des regards moqueurs sur le bonnet rond du prêtre grec qui nous conduisait. Il accueillait toutes ces paroles avec des haussements d'épaules, accablants d'ironie et de crédulité, et je pus remarquer en cette occasion, comme dans beaucoup d'autres, l'extrême froideur, on pourrait dire l'aversion, qui existe à Tine et dans les autres îles, entre les catholiques romains et les schismatiques grecs. Dans la vie habituelle, ils n'ont entre eux presque pas de relations, et j'ai toujours cru voir, je dois le dire, que l'intolérance existait surtout du côté du catholicisme. À Tine, cette intolérance est telle que je ne la puis mieux qualifier qu'en la comparant à notre manière d'être en France vis-à-vis des Juifs. À 10 heures, nous étions de retour chez M. Spadaro. Le couvert était mis dans la grande salle, et je vis qu'en notre honneur, il allait y avoir grand gala. Les conviés étaient rassemblés. Notre hôte vint au devant de nous avec une joyeuse bonhomie. Il nous présenta au curé du village, puis à ses frères, anciens marins qui avaient passé leur vie à faire un petit commerce entre Smyrne et Alexandrie. Enfin arrivèrent avec leur mari, ses deux filles aînées, demi-sœurs de Maria. Le petit vieillard a eu 2 femmes et 17 enfants. M. Spadaro avait envoyé dès le matin prévenir de notre arrivée tous les membres de sa famille, et tous arrivaient de leurs différents hameaux pour l'aider à nous faire les honneurs de sa maison. Maria vint nous demander si nous ne nous trouvions pas bien laide, sa pauvre île, nous qui avions vu tant et tant de si beaux pays. Bon, je ne sais ce que je lui répondis. Chaque fois que cette jeune fille me parlait, j'écoutais le son de sa voix, sans me rendre compte du sens de ses paroles, tout en contemplant ses grands cils noirs, ses sourcils droits et ses longues tresses brunes. On servit le dîner. Mon compagnon et moi fûmes placés au haut bout de la table. Pourtant, d'Homère, c'était la place d'honneur. Auprès de nous était d'un côté la maîtresse de la maison, de l'autre sa fille. Elle semblait nous dire, en se plaçant ainsi, qu'elle ne voulait confier à personne le soin de nous servir. Voilà c'est ce que notre code de civilité peut opposer à cet usage, mais il me semble à moi bien autrement hospitalier que le nôtre. Avant le repas, le prêtre prononça à haute voix une courte prière, à laquelle tous les assistants répondirent, et que nous écoutâmes inclinés. Le dîner était, dans sa profusion, d'une simplicité primitive. On en avait banni toutes les futilités dont nous embarrassons nos tables. En guise de fleurs et de surtout, un mouton à la palicare, c'est-à-dire un mouton bourré d'herbes aromatiques, rôti tout entier et servi avec sa tête, sa queue et ses quatre jambes, gisait au milieu de la table, flanqué de pyramides de volailles. Deux montagnes de riz complétaient ce menu digne d'Ajax, fils de Télamon. La conversation fut naturellement animée et toujours intéressante. Nous avions à faire 1000 questions et obligés les uns et les autres de traduire nos pensées dans une langue qui n'était pas la nôtre, nous surveillions chacune de nos paroles. Avant d'être exprimées, nos idées avaient subi, dans le travail même de la traduction, une sorte de triage, et nous avions garde d'énoncer tous ces riens qui viennent à l'esprit et qu'engendrent, dans les conversations ordinaires, une trop grande facilité de langage. Le malvoisi de M. Spadaro était excellent. Des toasts furent portés et rendus. Nous trinquâmes comme au bon vieux temps, et bientôt régna dans la salle une de ces naïves gaietés comme les aimait nos pères. Il y avait dans cet intérieur quelque chose de patriarcal, et à la simplicité antique de ces bonnes gens s'alliait je ne sais quelle douceur chrétienne. Après le repas, Maria nous conduisit à une vieille aiguillère de bronze et nous présenta, pour essuyer nos mains, une serviette du lin le plus blanc. Nous étions en pleine odyssée. Puis, comme la veille, les deux sœurs allèrent cueillir 2 gros bouquets de roses et d'œillets rouges qu'elles nous offrirent. Ce n'était pas leur beauté, quelque parfaite qu'elle fût, qui rendait si charmantes ces jeunes filles. C'était l'absence de toute coquetterie. Elles semblaient ignorer qu'elles fussent belles et conservaient toute la naïveté de l'enfant après avoir acquis toute la grâce de la jeune fille. En un mot, elles étaient arrivées à cet âge si vite écoulé où l'on ignore tout encore mais où l'on pressent déjà quelque chose. À voir leurs yeux pleins de soleil, on devinait quels éclairs devaient en jaillir au premier choc de la passion et de quelle molle langueur ils pourraient se voiler aux premières heures de tristesse. Mais leurs sens dormaient encore, et semblables à ces fleurs qui ne doivent s'épanouir qu'au rayon du jour, leur cœur attendait pour s'ouvrir à la vie un rayon de cet amour qui est le soleil de l'âme. La journée se passa doucement. La maison avait repris son train accoutumé. Les enfants jouaient sur le plancher, les femmes tricotaient de ces gants de soie indigènes dont on fait un grand commerce en Grèce. Nous recevions des visites. Les tignottes voulaient tous nous voir et causer avec nous. Aux arrivants, M. Spadaro faisait les honneurs de nos personnes avec une importance qui nous amusait beaucoup. Il nous considérait comme sa propriété, et quoique ne lui fussions pas d'un grand rapport, il croyait, en nous bien exploitant, tirer de nous un certain parti. Notre séjour dans cette île, ces mœurs si simples, cette hospitalité si cordiale, m'avaient déjà vivement intéressé. Mais je devais faire encore une nouvelle rencontre. Le soir de ce jour, je sortis de la maison pour me retrouver un instant seul avec moi-même et aussi pour regarder ce beau ciel d'Orient que je ne pouvais me lasser d'admirer. Je marchais quelque temps au bord de la mer Et bientôt j'arrivai à cette petite jetée où nos matelots nous avaient débarqués. Là, je m'assis sur le plat-bord d'une embarcation échouée. Quand je vins à songer à l'embarras où nous nous étions trouvés la veille à cette même place, je ne pus croire que 24 heures seulement se fussent écoulées depuis cet instant. Je m'étais si bien impatronisé dans la maison de notre hôte, tant d'incidents étaient survenus, un si grand nombre d'idées nouvelles étaient nées dans mon cœur, qu'il ne me semblait pas possible d'avoir tant vécu en si peu de temps. C'était une de ces soirées merveilleuses qui font croire à toutes les féeries des mille et une nuits. Le vent était tombé avec le jour, et l'air était d'une douceur infinie. Un grand ciel étincelant couvrait le monde de sa voûte de saphir et de diamants, et la mer, comme un autre ciel mouvant, routait dans ses petites vagues les étoiles qui se reflétaient dans son miroir. La couleur du ciel, de l'indigo le plus foncé au zénith, allait pâlissant par degrés, et dans le lointain, en nuances affaiblies, se fondait si doucement avec la nuance de la mer que l'on n'apercevait plus la ligne de l'horizon. Le regard que rien n'arrêtait plus errait au hasard dans l'espace, se perdait dans l'immensité, et le cœur s'épouvantait devant cette image de l'infini. Autour de moi, je n'entendais aucun bruit. Les maisons du village, avec leurs toits plats et leurs murs sans fenêtres, éclairées par une pâle lueur, étaient blanches et muettes comme des tombeaux. Tout semblait endormi. La mer seule, qui ne dort jamais, murmurait dans le lointain ses éternelles tristesses, et une molle brise passait en pleurant. Qui de nous, parmi ces belles soirées d'été, n'a pas écouté avec ravissement ces longs soupirs du souffle de la nuit? Qui de nous n'a pas cru reconnaître le son d'une voix aimée dans ces notes plaintives? J'ai quelquefois pensé que ce vent du soir, en passant sur la terre, recueillait les plaintes et les prières de ceux qui aiment ou qui prient, et confondait les murmures de toutes les âmes dans un même murmure, comme les parfums de toutes les fleurs dans un même parfum, pour les porter à Dieu. Bientôt, au milieu de cette harmonie mélancolique et de son magnifique cortège d'étoiles, la lune, reine de la nuit, s'éleva lentement dans toute sa splendeur méridionale. Je vis se projeter sur la mer une traînée lumineuse, scintillante, répercutant au centuple tous les rayons du ciel. Tout ce qui m'entourait, c'était donc la Grèce. C'était sous ce ciel qu'avaient vécu les hommes immortels dont les noms résonnaient dans mes mémoires. C'était le ciel d'Homère. Je voyais une de ces nuits chantées par l'auteur des Martyrs et de l'Itinéraire. Je me souvins que M. de Chateaubriand, allant d'Athènes à Smyrne, était un soir venu sous le port de Tyne. Ainsi, il y a 35 ans, par une nuit semblable, le caïque de l'auteur de René était amarré à ce même rivage, et nul dans l'île ne connaissait son nom, nul ne se souvenait de lui. Longtemps, je restais assis à cette même place, regardant le ciel, écoutant la mer, respirant avec bonheur l'air parfumé de la nuit, et prenant en grande commisération mes amis de Paris, qui, au même moment, promenaient leur ennui sur les boulevards éclairés au gaz de notre excellente capitale. Puis mes yeux, errant au hasard comme mes pensées, s'arrêtèrent machinalement sur cette constellation qu'on nomme la Grande Ourse. Elle était presque au-dessus de ma tête, et cette vue réveilla en moi un ancien souvenir. Je me rappelais un temps bien éloigné déjà, où je regardais du perron d'un vieux château la Grande Ourse qui se trouvait chaque soir à 7 heures au-dessus d'un grand frêne voisin du castel. Je saluais du regard ces étoiles amies qui venaient me parler des jours d'enfance déjà si loin derrière moi, et de mon pays dont j'étais séparé par une distance si grande. Il me semblait que ces petits astres me protégeaient. N'éclairaient-ils pas au même moment le grand frêne et le toit paternel? J'en étais là de mes réflexions lorsqu'un homme passa devant moi. Dans le premier moment, je l'aperçus à peine, mais le promeneur nocturne, étant à diverses reprises venu me regarder comme s'il voulait m'interroger, je l'examinai plus attentivement. C'était un homme d'une soixantaine d'années, il était habillé à l'européenne, portait de longues moustaches grises et tenait entre ses dents une de ces pipes de terre baptisées par nos soldats du nom de brûle-gueule. Cette particularité me frappa. Comment un habitant de Tine était-il en possession d'une pipe qui n'avait sans doute pas sa pareille à 400 lieues à la ronde? Comme je m'adressais cette question, il me vint au visage une bouffée de ce tabac national âcre et odieux, si judicieusement nommé caporal. La curiosité me prit, je me levai et marchai droit vers l'inconnu qui s'était arrêté à quelques pas de moi. « Pourrais-je, sans indiscrétion, monsieur, lui dis-je en italien, vous demander d'où vous vient cette pipe ?»« De France, monsieur, me répondit-il en bon français. J'y suis resté 10 ans. Mais vous, monsieur, n'êtes-vous pas un des voyageurs français arrivés hier au soir ?» Je répondis affirmativement. « Quel bonheur ! » s'écria mon interlocuteur. « Oh, je croyais que vous ne fussiez reparti. Je savais que vous étiez descendu chez M. Spadaro, mais comme il est catholique et que je suis grec, il ne me voit pas d'un très bon œil et je n'osais pas aller vous chercher chez lui. Cependant, je voudrais absolument vous rencontrer. Oh, faites-moi l'honneur de venir chez moi, monsieur, comme ma femme va être heureuse de vous voir. » « Va être heureuse de me voir, » répétai-je, me mettant en marche et songeant au sultan des mille et une nuits. « Oui, ma femme est votre compatriote, monsieur. J'ai servi en France du temps de Napoléon et je m'y suis marié. » Du temps de Napoléon, calculai-je rapidement, alors la sultane date au moins d'un demi-siècle. Mon pas se ralentit. « Oh, je serais fort heureux, » ajoutai-je, « de voir une compatriote. » Nous arrivâmes bientôt à la maison de M. Lambre. Il m'avait appris son nom chemin faisant. Cette maison touchait à celle dans laquelle nous étions la veille entrés si brusquement. Quelle eût été notre surprise si, poussant au hasard cette porte, nous étions tombés dans un ménage français. Le calcul approximatif que je m'étais permis de faire à propos de l'âge de Mme Lambre était encore galant. Le 19e siècle est né quelques années plus tard qu'elle. Madame Lambre est de Melun. Elle habitait paisiblement sa ville natale, sans se douter de la nouvelle patrie que le sort lui destinait, lorsque M. Lambre, alors brillant sous-officier au Mamelouk de la garde, lui plut et l'épousa. Après les 100 jours, il emmena sa jeune femme dans son pays, c'est-à-dire à Tine. M. Lambre, qui a conservé en Grèce le bonnet rond que les femmes portaient en France il y a 30 ans, me parut être une excellente personne, fille sans doute de beaux bourgeois de Melun, ayant reçu une éducation analogue à son origine. Elle habite une jolie petite maison grecque, quant aux murailles, mais toute française à l'intérieur. J'envoyai chercher mon compagnon de voyage, et je laisse à penser quelle fête ce fut pour elle de causer avec nous dans sa langue naturelle et de nous entendre parler de sa ville que nous connaissions. Seulement elle avait peine à comprendre ce que nous lui disions de la France. Elle s'obstinait à voir notre pays à travers ses souvenirs vieux de 30 ans. « En vérité, nous disait-elle, on peut aller de Melun à Paris et revenir en un jour. Mais comment donc sont faits ces chemins de fer? Et vous dites que l'on va de Paris à Marseille en 4 jours, par les diligences? Mais que nous avons fait cette route, monsieur Lambre et moi? Nous avions loué une vieille calèche jaune et deux chevaux efflanqués. Il nous a fallu tout un mois. Et vos barbes, oh pardon si je suis indiscrète, mais vos barbes, est-ce donc la mode en France de porter des barbes si longues? La bonne femme ne trouvait rien de séduisant dans cette parure des jeunes gens de notre époque. Et toutes les bonnes femmes de cet avis ne sont pas en Grèce. Que des Turcs, disait-elle, soient ainsi barbus, personne n'y trouve à redire, mais des Français. Oh, cela a l'air si sale, si négligé. Autrefois, personne ne s'avisait d'avoir le menton ainsi hérissé. Oh, tout est bien changé en France depuis 1815, n'est-il pas vrai? Mais vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ce temps-là. À propos de toilettes, Madame Lambre nous parla des femmes grecques et nous les dénonça comme étant d'une insigne coquetterie. Elle nous apprit qu'elle poussait jusqu'au merveilleux l'art de s'ajuster, qu'elle n'avait pas d'autre pensée, pas d'autre occupation. Qu'elle savait « se préparer », c'était son expression, d'une manière tout à fait inconnue en France. Que la plus pauvre, avant de songer à voir du pain, achetait du rouge pour ses joues, du bleu pour le tour des yeux, du noir pour les sourcils, et des pommades de toute espèce. Que toutes portaient de faux cheveux, et que ces belles nattes qui faisaient notre admiration étaient le plus souvent des nattes de pendus. Aussi avait-elle ces dames en grande aversion. De son antipathie et de ses critiques, elle acceptait seulement les filles de M. Spadaro, qu'elle trouvait, ainsi que nous, charmantes. C'était d'elle que Maria avait appris un peu de français, mais elle ne la voyait plus que rarement. Je compris que quelques différences étaient élevées entre les deux maisons, et je m'expliquai le silence qu'avait gardé le petit consul à l'égard de notre compatriote. Monsieur Lambre est d'un ces vieux soldats bronzés en Égypte, gelés en Russie, martyrs des pontons d'Angleterre, blessés en Espagne, échappés en Italie, laissés pour mort en Prusse, dont l'ardeur s'est éteinte et dont le caractère guerrier s'est complètement effacé. À part ses longues moustaches, il n'a dans la physionomie rien de militaire. Son allure n'est plus pacifique et rien en lui ne rappelle le hardi mamelouk qui séduisit la jeune fille de Melun. Autrefois amant de la gloire, il n'aime plus maintenant que sa tabatière, ses pantoufles, sa femme et le tabac français qu'il trouve incomparable et que lui vendent à Syrah les matelots des bateaux à vapeur. Intrépide dans sa jeunesse, il est devenu douillet dans ses vieux jours. Et il se préoccupe d'une infinité de petits détails domestiques, qui paraîtraient puérils à beaucoup, mais qui, pour lui, composent un bien-être que lui fait apprécier le souvenir des privations autrefois souffertes. Enfin revenu dans son île après de rares campagnes, il y passe sa vie, comme le font beaucoup de ses anciens compagnons retirés maintenant dans leur province, se promenant à petits pas, ramassant les nouvelles, devisant avec quelques vieux compères, et guettant l'arrivée des caïques au moment où les autres vont voir passer la diligence. Ô vieillesse, notre arrivée à Tine est un événement dans la vie de cet homme qui a vu les pyramides et le soleil d'Austerlitz. Je demandais à Madame Lambre si elle voudrait revoir la France. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle me confia que c'était son plus grand désir, son seul rêve. Ses parents sont morts, ses amis l'ont oublié. Toutes ses affections sont en Grèce et pourtant, elle pleure rien qu'en songeant à la patrie absente. Souvent, l'on s'est étonné de la rapidité avec laquelle arrivent les mauvaises nouvelles et de la façon presque miraculeuse dont elles se propagent. Et nous en eûmes à Tine un singulier exemple. Monsieur Lambre, qui était sans contredit l'homme le mieux informé de l'île, nous apprit que dans la journée, le bruit s'était répandu d'un grand malheur arrivé en Allemagne. Une ville dont on ignorait le nom avait été, disait-on, brûlée presque entièrement. D'où venait cette nouvelle? À notre départ de Syrah, il n'en était pas question. Depuis notre arrivée, la violence du vent n'avait laissé aucun caïque aborder l'île. Et cependant, rien n'était plus vrai. Notre retour à Syrah, nous apprîmes, dans tous ses détails, l'incendie de Hambourg. Ne nous attendant pas à un si gracieux accueil, nous étions arrivés à Tine avec l'intention de n'y rester qu'un seul jour. La journée s'était passée sans que nous eussions même songé au départ. Mais le lendemain, craignant de gêner notre hôte en prolongeant notre séjour et de manquer le paquebot si le vent nous contrariait encore, nous annonçâmes qu'il nous fallait partir. Ce fut dans toute la maison un hourra général. Les jeunes filles nous regardèrent avec une surprise mêlée de tristesse. Leur mère nous fit demander si nous nous trouvions mal chez eux. Quant à M. Spadaro, il entra dans sa plus grande colère et reprenant toute la vivacité de sa jeunesse, il nous déclara que l'on ne traitait pas les gens de la sorte, que l'on ne venait pas se faire aimer pendant un jour seulement pour partir le lendemain, que d'ailleurs le vent rendait le voyage de Syrah fort dangereux, sinon impossible. Mais, lui disais-je, si nous ne partons pas, le bateau autrichien partira sans nous et nous n'arriverons pas ce mois-ci à Athènes. Et si vous vous noyez d'ici à Syrah, en arriverez-vous plus vite à Athènes? N'avez-vous jamais entendu parler en France du vaisseau Le Superbe? Oh, il était 100 000 fois plus fort qu'aucun caïque, et pourtant il a péri, il n'y a pas déjà si longtemps, entre Andros et Paros. Si vous êtes jeune et fou, moi je suis un vieillard, vous me devez obéissance, allez, vous êtes mes hôtes, je vous considère comme étant sous ma responsabilité, et je crois, en l'absence de vos familles, devoir veiller sur vous. Vous ne partirez pas, puisqu'il y a danger à partir. Et comme j'ai quelque autorité dans l'île, je défendrai, s'il le faut, à tout caïque de vous prendre. Nous nous laissâmes facilement persuadés, et nous restâmes à la grande satisfaction de tout le monde, et je dois le dire, des jolis Grecs plus particulièrement. 2 jours se passèrent ainsi à faire ce que bon nous semblait, à aller, à venir, à recevoir et à rendre des visites. Au retour de nos promenades, nous trouvions des visages souriants, une cordiale poignée de main et les longs yeux, surtout les longs yeux de Maria. Que fallait-il de plus? Je me serais volontiers arrangé de cette douce existence. Plus d'une fois, l'idée me vint de laisser là le Parthénon, les platanes de Smyrne, les minarets de Constantinople, et tous les itinéraires tracés d'avance, afin de me fixer, pendant quelques mois au moins, au milieu de cette bonne famille. Pour me détourner de ce projet, mon compagnon, plus grave, fut forcé de recourir à ses meilleurs raisonnements. Il n'était pas possible de transiger. Il fallait ou rester tout l'été, ou partir sans attendre la saison des chaleurs et de la fièvre. Je me laissais convaincre, et il fut convenu que, si le temps le permettait, notre départ aurait lieu le 3e jour, c'est-à-dire le 25 mai 1842. La veille seulement, M. Spadaro me parla de ses affaires particulières. Et voici ce qu'il me conta. Je demande la permission d'entrer ici dans quelques détails. M. Spadaro a depuis fort longtemps le titre d'agent consulaire de France. Ce titre, on le sait, ne rapporte jamais rien, mais il peut coûter fort cher dans certaines circonstances. Lors de la Révolution grecque, M. Spadaro, tout dévoué à la France et docile aux ordres qu'il en recevait, se conduisit si noblement qu'il reçut à diverses reprises du ministère des Lettres de félicitations fort gracieuses. Mais il n'en reçut que des lettres, il n'avait dépensé de l'argent. Plus tard, il a réclamé. Malheureusement, peu au fait de la comptabilité gouvernementale, il ne sut pas fournir de compte régulier. Le gouvernement ne peut pas se payer de bonnes raisons, ni même de la parole d'honneur d'un honnête homme. Le baron Rouen, alors ministre à Athènes, oublia ou négligea au milieu d'intérêts plus grands les demandes du consul de Tine. Et depuis cette époque, M. Spadaro a adressé au ministère plusieurs autres réclamations. Il n'a jamais reçu de réponse. Un seul espoir lui restait. M. de Rigny, lorsqu'il était simple capitaine de vaisseau, avait passé plusieurs mois à Tine. Il avait été témoin de la noble conduite de notre agent. Il avait vécu intimement chez lui, comme nous-mêmes. Plus tard, il devint ministre de la Marine. Le second fils de M. Spadaro, voulant embrasser la seule profession qui soit lucrative dans le Levant, était à Paris où il étudiait la médecine. Il se présenta au ministère en toute confiance, croyant presque retrouver dans le ministre un ancien ami. Mais son Excellence reçut avec tant de hauteur le jeune étudiant que celui-ci n'osa plus jamais lui demander une audience, et le ministre ne promit rien ou fit peu de choses pour son père. Cependant, sa mémoire seule pouvait suppléer aux papiers qui manquaient. Le lendemain, jour fixé pour notre départ, le vent terrible dans la matinée se calma vers le milieu du jour. On nous annonça qu'un caïque partirait, et avec lui M. Teoteki, gouverneur de Tine. Nous allâmes faire une visite à ce haut fonctionnaire qui ne touche pas moins de 200 drachmes d'appointements par mois, ce qui, honneur à part et pécuniairement parlant, assimile sa position de gouverneur en Grèce à celle d'expéditionnaire en France, dans une administration quelconque, ou de sous-lieutenant dans l'armée. Le comte Teoteki est un homme plein de distinctions. Il nous reçut fort gracieusement et il fut convenu que nous partirions ensemble. Cette importante affaire décidée, et nous revînmes chez nos amis, voulant passer avec eux tout le temps qui nous restait. La famille entière nous attendait. Il y avait de la tristesse sur tous les visages. Madame Spadaro nous fit dire par sa fille que nous avions tort de les quitter, que nous pourrions être heureux chez elle, et que bien volontiers elle nous garderait pendant des années. Je remerciai, dans toute la sincérité de mon cœur, la charmante interprète. À midi, le gouverneur vint. L'embarcation était prête. Toute la famille nous accompagna jusqu'à l'embarcadère. J'étais tout attristé. « Je suis fâché de vous avoir connu, » dis-je à M. Spadaro. « Et si j'avais pu prévoir la peine que j'éprouve en vous quittant, jamais je ne serais venu à Tine. » Le bonhomme sauta au cou et m'embrassa les larmes aux yeux. « Vrai cœur de Français !» s'écria-t-il. « Oh, un Anglais dirait jamais une chose comme celle-là » Les jeunes filles avaient préparé de petits gâteaux et fait une provision d'oranges dont elles remplirent nos poches. C'était, nous dirent-elles, pour le voyage. Bon, j'aurais de grand cœur embrassé ces jolies pourvoyeuses. En France, je l'eusse fait sans doute, mais en Orient, les usages sont plus sévères. J'allais même peut-être plus loin que ne le permettaient les convenances en prenant la main de Maria et en la serrant dans les miennes. En cet instant, je songeais que, selon toute probabilité, je ne reverrai jamais cette charmante personne, et mon cœur se gonfla malgré moi. Là, peut-être, serait le bonheur, pensais-je, et mon cœur, qui voulait rester, cherchait à persuader ma raison, qui commandait de partir. Mon compagnon m'entraîna. Déjà, le gouverneur était embarqué. Dès que nous fûmes auprès de lui, on largua la grande voile. Le caïque se coucha sous le vent, bondit sur les vagues et partit comme une flèche. Une minute plus tard, nous n'apercevions plus que des mouchoirs qui s'agitaient sur le rivage. Nous saluâmes d'un dernier regard ce rocher où le hasard nous avait poussés et nous jetâmes du fond du cœur un dernier adieu à ces amis d'un jour que nous ne devions plus revoir.